les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie. Cet aphorisme de Franz Kafka pourrait fort bien s'appliquer à l'existence de Marthe Robert, qui fit tant pour la découverte et la compréhension de l'écrivain pragois en France. Auteur de plusieurs ouvrages à son sujet, elle établit également la première version française de son journal et fut l'auteur d'une œuvre critique dans laquelle elle faisait se rencontrer la méthode psychanalytique et la compréhension du roman. En 1980, elle était l'invitée d'Anouk Adelman pour deux volets de l'émission « L'autre scène ou les vivants et les dieux ». Dans le premier d'entre eux, elle racontait sa découverte dans l'enfance de l'univers du conte, notamment ceux des frères Grimm, et celle, quelques années plus tard, d'un récit de Kafka intitulé « L'épée » ou « Comment réalisme et merveilleux peuvent faire bon ménage ». Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 mars 1980.
Histoire d'une passion, Marthe Robert et les livres. Anouk Adelman, Marthe Robert, Le monde des fées.
Quand on vous connaît un peu, quand on a lu pas mal de vos livres, on est frappé par la familiarité que vous entretenez depuis toujours, enfin semble-t-il depuis toujours, avec la littérature, avec la chose écrite en général. Et c'est tellement étroit cette familiarité, c'est tellement passionné finalement, qu'on est en droit de se demander comment tout cela a pu un jour commencer.
Toujours très difficile de retrouver les origines. Bien entendu, mais s'il fallait vraiment rattacher ce qu'on pourrait appeler, mon Dieu, en gros, une vocation à des événements, ce serait naturellement ceux de l'enfance. Vous savez que ça, je le crois, d'une manière générale. Mais en l'occurrence, ça me paraît particulièrement fondé, parce que j'étais une enfant, je ne sais pas, un peu irréelle, disons. Et en tout cas, mon premier contact avec la chose écrite a été très, très précoce. Je ne vous dirai pas à quel âge j'ai appris à lire, parce que ce serait excessif. Mais tout de même, la lecture a joué un rôle absolument décisif dans ma vie. Peut-être à cause de circonstances familiales un petit peu particulières, peut-être, je ne sais pas, on pourrait trouver sûrement beaucoup de raisons. Le fait est que dès l'instant que j'ai su lire, je me suis jetée sur les livres. Mais il ne faudrait pas croire que c'était d'emblée des livres très littéraires, très savants. Pas du tout, pas du tout.
Justement, vous parlez de circonstances familiales. Est-ce que les gens autour de vous lisaient beaucoup ?
Non, justement non. La lecture a été pour moi certainement une manière de recréer un monde. C'est très très banal ce que je dis là, n'est-ce pas? D'abord, je crois que beaucoup d'enfants liseurs ne sont exactement dans le même cas, ça n'a rien du tout d'original. La lecture était justement une protection, une défense contre un monde extérieur qui n'était justement pas poétique pour deux sous, si vous voulez, qui ne laissait pas beaucoup de place aux rêves, ou même qui en laissait beaucoup justement à cause de sa nudité. Il y avait autour de moi une certaine nudité, un certain dénuement au sens littéral du mot, qui probablement m'a poussé précocement, on pourrait presque dire prématurément, vers bon, un monde irréel, un monde de rêve. Et qu'est-ce que c'est que le monde de rêve pour l'enfant? C'est celui dont il a tout de suite, très vite, une connaissance très familière, c'est celui des contes de fées. Je dois dire que de ce point de vue, j'ai même été un enfant, enfin particulièrement retardataire, parce que j'ai lu des contes de fées jusqu'à un âge très avancé, un âge où normalement j'aurais déjà lu lire d'autres choses. Naturellement, je lisais aussi d'autres choses, mais rien ne valait pour moi ces petits feuillets, ces petites livraisons que l'on trouvait à l'époque dans les librairies, chez les marchands de journaux. qui était coloriée, la couverture était coloriée, il y avait aussi des images à l'intérieur, mais la couverture était coloriée un petit peu à la façon des images d'Épinal. Vous savez, c'était généralement en trois couleurs, il y avait du blanc, du bleu, du vert, du rouge ou du jaune, et les couleurs passaient les unes dans les autres, n'est-ce pas ? Il y avait généralement la princesse ou le prince charmant sous des noms différents, peut-être toujours les mêmes personnages, et le diadème de la princesse passait dans la verdure au-dessus des arbres, et il y avait un chien ou une bête merveilleuse, dans des couleurs aussi très, très violemment coloriées. Ces petites livraisons, ça fait peut-être une vingtaine de pages, je ne sais pas. Et je les dévorais. Je les dévorais et je me souviens très, très bien que, lorsque j'étais plongée dans ces histoires, elles n'étaient pas toutes de la valeur, de la qualité des contes de Grimm que j'ai traduits beaucoup plus tard, naturellement. Quand j'étais absorbée là-dedans, il n'y avait absolument pas moyen de m'en tirer. J'étais enfermée, littéralement, dans ce monde où la littérature n'avait pas beaucoup de part, vous pouvez bien l'imaginer, mais où, en revanche, il y avait une rupture totale avec le monde ambiant, avec la réalité. Et il a fallu très très longtemps pour que je me défasse un petit peu de cette manie de lire des contes. Et je dois dire qu'il n'y avait pas si longtemps que j'avais cessé d'en lire, quand au fond j'ai commencé à en écrire. Ça, il n'y a pas eu tellement, enfin, une dizaine d'années peut-être, mais pas plus. Et j'ai commencé, j'ai commencé à écrire en écrivant des contes qui n'étaient pas exactement de fées, bien sûr, mais qui étaient tout de même des contes merveilleux. Je me souviens en particulier du premier conte peut-être que j'ai écrit, je ne sais pas. J'avais 15 ans ou 16 ans. Il s'agissait d'un enfant. C'est curieux d'ailleurs, je n'ai jamais publié, inutile de vous dire ce conte, et je crois même que personne ne l'a lu. Ou bien des amis d'enfance, mais je ne crois pas que je l'ai jamais même donné à lire à qui que ce soit. Je me souviens du personnage de ce conte comme si je l'avais vraiment rencontré dans ma vie, alors que cet essai n'a eu aucun lendemain et que je n'y ai attaché aucune importance. Mais peut-être le personnage existait-il réellement pour moi? En tout cas, il devait avoir une certaine importance pour moi. Je voyais, c'était un enfant. Un enfant qui se promenait dans un paysage en miniature, que je voyais entièrement en miniature. Et l'enfant, lui, était grandeur nature, n'est-ce pas? Si bien qu'il avait l'air, cet enfant, d'un géant. Au milieu, il y avait un petit jardinet, une sorte de petit square, mais vraiment miniaturisé, et cet enfant, ce garçon, se promenait avec une bête en laisse qui était, si je me souviens bien, un mouton. Mais ce qui était, ce n'était pas tellement le mouton auquel il arrivait des tas d'histoires par la suite, c'était cet enfant qui était, et maintenant, c'est très curieux, il me vient juste à l'esprit en y pensant. Cet enfant me rappelle un vrai enfant, effectivement, mais j'aurai l'occasion d'en reparler car nous le rencontrerons encore assez souvent. Un garçonnet, brun, les yeux noirs, le visage extrêmement sérieux et de grands bas noirs. Je revois les bas de ce garçon, bien sûr, il y a eu une époque où les garçonnets étaient habillés comme ça. Et cet enfant se promenait dans la ville, dans une ville toute petite, donc, avec son grand mouton. Enfin, il était le petit Gulliver de cet univers de nains. Je ne sais plus très exactement ce qui lui arrivait. Il y avait des métamorphoses, il y avait des changements à vue, il y avait toutes sortes de choses. Mais ce dont je me souviens, en revanche, très très bien, c'est l'allure générale, l'expression de cet enfant, son sérieux surtout. J'ai toujours été très 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 sensible au visage d'enfants sérieux. Il y a chez les enfants quelquefois une expression très, qu'on ne peut pas attribuer ni à de la tristesse, ni à de la méditation, ni à de la réflexion, ni à rien du tout, mais qui est tout simplement la gravité, une espèce de gravité essentielle, si vous voulez. Eh bien, ce petit garçon de mon premier conte avait cette mine-là, avait ce sérieux-là.
Et vous écriviez ça où ? Où étiez-vous alors ?
À Paris, j'écrivais ces histoires en général à genoux sur un tabouret. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas m'asseoir à genoux sur un tabouret. C'était on ne peut plus inconfortable et comme j'avais toujours mal aux genoux en plus, c'était très pénible. Mais c'est pas maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Bon, mais j'ai écrit assez longtemps des contes de fées. Mais bien sûr, enfin, il a fallu un beau jour tout de même rompre avec cette sorte de fascination, cette fascination, disons, d'un ailleurs. Au fond, c'était vraiment un ailleurs. Je ne savais pas encore, bien sûr, que toute la littérature est un ailleurs, par un certain côté.
Il était une fois deux frères. Quand ils furent grands, leur père adoptif les emmena un jour dans la forêt et leur dit « Vous ferez aujourd'hui votre coup d'essai, afin que je puisse vous émanciper et vous déclarer chasseur. » Ils se mirent à l'affût avec lui et attendirent longtemps, mais il ne venait pas de gibier. Les deux frères continuèrent leur chemin et arrivèrent dans une forêt si grande qu'en une journée, il leur fut impossible d'en sortir. Comme ils n'avaient plus rien à manger, l'un d'eux dit « Il nous faut tirer du gibier, sans quoi nous aurons faim. » Il chargea son fusil et regarda autour de lui. Et ayant vu un vieux lièvre s'en venir en courant, il le mit en joue. Mais le lièvre s'écria « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux petits. » Il disparut d'un bond dans le forêt et amena deux petits. Les petits animaux jouaient si gaiement et étaient si gentils que les chasseurs n'eurent pas le cœur de les tuer. Ils les gardèrent avec eux et les petits lièvres leur emboîtèrent le pas. Peu après, un renard passa devant eux à vive allure. Ils voulurent l'abattre, mais le renard s'écria « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux petits. » Il amena aussi deux renardeaux et les chasseurs n'osèrent pas non plus les tuer. Ils les mirent avec les levrots pour leur tenir compagnie et tous leur emboîtèrent le pas. Peu après, un loup sortit du fourré. Les chasseurs le mirent en joue, mais le loup s'écria « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux petits. » Les chasseurs mirent les deux jeunes loups avec les autres animaux et ils leur emboîtèrent le pas. Là-dessus vint un ours qui aurait bien aimé trotter encore longtemps et qui dit « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux petits. » Les deux oursons furent mis en compagnie des autres et ils étaient déjà huit. Et qui vint enfin ? Un lion qui secouait sa crinière. Mais les chasseurs ne reculèrent pas et le visèrent. Cependant, le lion dit aussi « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux petits. » Il alla chercher ses petits. En sorte que maintenant, les chasseurs avaient deux lions, deux ours, deux loups, deux renards et deux lièvres qui les escortaient et les servaient. Ils allèrent un bout de temps à l'aventure, mais ne purent pas trouver l'emploi qui leur eût permis de rester ensemble. Alors ils se dirent « Rien à faire, il faut nous séparer. » Ils se partagèrent les animaux en sorte que chacun eut un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre, puis ils se dirent adieu, se jurèrent d'être fidèles jusqu'à la mort à leur amour fraternel, et plantèrent dans un arbre le couteau que leur père adoptif leur avait donné. Après quoi, l'un partit vers l'est, l'autre vers l'ouest. Or, le cadet arriva avec ses animaux dans une ville qui était entièrement tendue de crêpes noires. Il demanda à l'aubergiste pourquoi la ville était ainsi. Celui-ci répondit « Aux portes de la ville, il y a une haute montagne où habite un dragon. Tous les ans, il faut lui donner une vierge, faute de quoi, il dévaste tout le pays. Or, on lui a déjà livré toutes les vierges et il ne reste plus personne que la fille du roi. Mais il n'y a pas de grâce possible et elle doit lui être livrée. Et cela se fera demain. » Le chasseur dit « Pourquoi ne tue-t-on pas le dragon ?»« Ah !» répondit l'aubergiste, « tant de chevaliers ont essayé, mais ils l'ont tous payé de leur vie. Le roi a promis sa fille en mariage à celui qui vaincra le dragon. Et après sa mort, il héritera aussi du royaume. »
Bien entendu, le chasseur, dont la force a été décuplée par un breuvage magique, va, au prix d'un grand effort, tuer le dragon aux sept têtes, couper les sept langues et délivrer la jeune fille. Mais...
cela fait, il était tellement abattu et fatigué par le feu et la bataille qu'il dit à la jeune fille « Nous sommes tous deux si abattus et fatigués, nous devrions dormir un peu. » Elle dit oui, et ils se couchèrent par terre, et le chasseur dit au lion « Tu monteras la garde, afin que personne ne nous attaque pendant notre sommeil. » Et ils s'endormirent tous les deux. Le lion se coucha à leur côté pour monter la garde, mais lui aussi était fatigué par le combat, de sorte qu'il appela l'ours et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu, s'il y a quelque chose, réveille-moi. » Alors l'ours se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué, il appela donc le loup et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu, s'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le loup se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué, il appela donc le renard et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu, s'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le renard se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué, il appela le lièvre et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu, s'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le lièvre se coucha à côté de lui. Le pauvre lièvre aussi était fatigué, mais il n'avait personne pour le remplacer. Et il s'endormit. À présent, la princesse, le chasseur, le lion, l'ours, le loup, le renard et le lièvre dormaient et tous étaient plongés dans un profond sommeil.
Le maréchal du roi, qui a tout vu de loin et qui pense que tout danger est écarté en ce qui concerne le dragon, prend son courage à deux mains et monte sur la montagne. Là, il profite de ce que le chasseur est endormi pour le tuer et pour obliger sous la menace la jeune fille à dire au roi son père que c'est lui le vainqueur du dragon, donc l'homme qu'elle doit épouser. Cependant,
les animaux étaient encore couchés sur la montagne à côté de leur maître mort. Et ils dormaient. Alors un gros bourdon vint se poser sur le nez du lièvre et lui piqua le nez si violemment qu'il se réveilla. Sitôt réveillé, il réveilla le renard, et le renard le loup, et le loup l'ours, et l'ours le lion. Et quand le lion fut réveillé et qu'il constata que la jeune fille était partie et que son maître était mort, il se mit à rugir effroyablement et s'écria « Qui a fait cela ? Ours, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» L'ours demanda au loup « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le loup au renard « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le renard au lièvre « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Seulement le pauvre lièvre ne sut que répondre et toute la faute retomba sur lui. Alors ils voulurent le mettre à mal, mais il les implora en disant « Ne me tuez pas, je vais rendre la vie à notre maître. Je connais une montagne où pousse une certaine racine. Celui qui l'a dans la bouche est guéri de toutes les maladies et de toutes les blessures. » Le lièvre partit d'un bond, et au bout de 24 heures, il était revenu et apportait la racine. Le lion remit la tête du chasseur en place, et le lièvre lui plaça la racine dans la bouche. Bientôt, tout se rassembla, le cœur se mit à battre et la vie revint. Alors le chasseur se réveilla et, effrayé de ne plus voir la jeune fille, il pensa « Elle est sans doute partie pendant mon sommeil pour se débarrasser de moi. »
Et le chasseur tomba dans une grande mélancolie. Jusqu'au jour où ses voyages à travers le monde le ramenèrent à la ville où il avait un an avant tué le dragon. Et la ville était en fête, car on allait célébrer les noces du maréchal et de la fille du roi.
On apportait justement les 7 têtes du dragon pour les faire voir. Et le roi dit « Ces 7 têtes sont celles que le maréchal a tranchées au dragon. C'est pourquoi je lui donne aujourd'hui ma fille pour femme. » Alors le chasseur se leva, ouvrit les 7 gueules et dit « Où sont les 7 langues du dragon ?» Le maréchal fut pris de peur. Il devint tout pâle et ne sut que répondre. Enfin, il dit dans sa frayeur « Les dragons n'ont pas de langue !» Le chasseur dit « Les menteurs n'en devraient pas avoir, mais les langues de dragon sont l'épreuve du vainqueur. » Et il défit son mouchoir, et elles y étaient toutes les 7. Puis il mit chaque langue dans la gueule dont elle faisait partie, et elle s'y adaptait parfaitement. Ensuite, il prit le mouchoir où était brodé le nom de la princesse, et il le montra à la jeune fille en lui demandant à qui elle l'avait donné. Alors elle répondit « À celui qui a tué le dragon ». Alors le roi demanda à sa fille « Est-il vrai que celui-ci a tué le dragon ?» Alors elle répondit « Oui, c'est vrai ». Alors le roi fit venir 12 conseillers pour juger le maréchal, et ils le condamnèrent à être écartelé par 4 bœufs. Ainsi le maréchal fut-il exécuté. Quant au roi, il donna sa fille au chasseur et le nomma gouverneur de tout son royaume.
Les romantiques allemands en particulier, qui étaient des faiseurs de contes, qui étaient des liseurs de contes, des découvreurs de contes. Ils ont été les chercher un petit peu partout dans les campagnes, là où il en restait, alors que le folklore existait encore, mais qu'il était presque sur le point de se perdre. Ils se sont dépêchés, sentant que c'était la fin, ils se sont dépêchés de faire des recueils. Mais ils étaient donc, comme moi, de grands liseurs de contes et de grands faiseurs de contes, ce que je ne suis pas, malheureusement. Et l'un d'eux a écrit quelque part que toute histoire, tout roman, si moderne soit-il, quel que soit son sujet, quelle que soit la technique qu'il emploie, au fond commence par « Il était une fois ».
Par un jour d'hiver, la terre étant couverte d'une épaisse couche de neige, un pauvre garçon dut sortir pour aller chercher du bois en traîneau. Quand il eut ramassé le bois et chargé le traîneau, il était tellement gelé qu'il ne voulut pas rentrer chez lui tout de suite, mais faire du feu pour se réchauffer un peu d'abord. Il balaya la neige, et tout en raclant ainsi le sol, il trouva une petite clé d'or. Croyant que là où était la clé, il devait y avoir aussi la serrure, il creusa la terre et trouva une cassette de fer. Pourvu que la clé aille, pensa-t-il, la cassette contient sûrement des choses précieuses. Il chercha, mais ne vit pas le moindre trou de serrure. Enfin, il en découvrit un, mais si petit que c'est tout juste si on le voyait. Il essaya la clé, elle allait parfaitement. Puis, il la tourna une fois dans la serrure, et maintenant, il nous faut attendre qu'il ait fini d'ouvrir et soulever le couvercle. Nous saurons alors quelle chose merveilleuse était contenue dans la cassette.
Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce que vous racontez, parce que même dans le choix des mots, il y avait ce petit garçon dont on va tellement reparler, parce que je crois que je l'ai reconnu, je ne dois pas être la seule. Et puis le fait que le conte, le fait de « il était une fois », qui est à la fois les fameux premiers mots que tout le monde connaît, mais en même temps la désignation dans un ailleurs, dans le temps et dans l'espace, de quelque chose qui a réellement existé. C'est arrivé, puisqu'on le dit, c'est que c'est arrivé. Alors, on a envie de vous dire, mais alors, dès l'enfance, vous avez su tout de suite ce que c'était que la littérature, inconsciemment.
Non. Il a fallu, vous savez, il y a des choses que l'on sait tout de suite, en tout cas, moi, c'est mon cas, et les choses que je sais tout de suite, ensuite, il me faut 20 ans pour les comprendre. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est assez tardivement que j'ai compris pourquoi j'avais eu cette sorte de passion un peu anormale, un peu pathologique, parce qu'elle était trop prolongée, n'est-ce pas, elle était excessive. C'est bien plus tard que j'ai pu le comprendre, mais il faut dire, après, tout de même, avoir passé par l'expérience de la psychanalyse qui vous ramène à l'enfance, qui m'a fait revivre, bien entendu, cette sorte de fuite devant la réalité, c'est cela, bien entendu, c'est très simple. Et il a fallu, donc, ensuite... ce contact tout à fait étroit, intime, puisque quand on traduit quelque chose, on est véritablement en contact corporel, pour ainsi dire, avec le sujet et avec l'auteur. Il a fallu ce contact intime avec ces contes allemands, avec ces Märchen, que je considère pour ma part parmi les plus beaux. Il a fallu cette expérience-là, jointe à l'expérience psychanalytique, pour que le conte, alors, devienne quelque chose de véritablement décisif dans ma conception générale, disons, de la littérature romanesque, tout au moins, car il s'agit bien de cela. C'est la littérature d'imagination, celle qui raconte des histoires et qui, au fond, ne fait que recommencer les éternelles histoires qu'on a lues, monotones, n'est-ce pas, car on aime qu'elles soient monotones, les éternelles histoires qu'on a lues dans son enfance et celles qu'on se raconte et qu'on n'a pas cessé de se raconter. Mais il a fallu que un certain temps passe pendant lequel la littérature a été considérée tout à fait autrement et il me semble maintenant faussement, c'est-à-dire comme un domaine de l'esprit particulièrement relevé, élevé, sublimé, si vous voulez, où on n'avait accès qu'à des conditions extrêmement difficiles à remplir. C'était le moment où je fréquentais des écrivains, où j'ai fréquenté des grands poètes, où j'ai fréquenté... Et où, alors, la littérature, à ce moment-là, m'a impressionné, et où je n'étais plus au fond. Je me rends compte maintenant vraiment dedans.
La littérature, donc, ne cesse de vous suivre, parce que, bon, les contes, c'est déjà de la littérature, pour vous, sans le savoir ou le sachant, peu importe. Après, vous dites que vous avez fréquenté des gens qui faisaient de la littérature, des grands poètes, des écrivains. Il semble que ce soit un cheminement normal. Vous passez du conte et vous avez des amis qui écrivent. C'est comme ça que ça se passe ?
Oui, ça s'est passé comme ça, parce que, vous savez, c'est une question de milieu, un petit peu, forcément. Je me suis trouvé vivre à Montparnasse, mais chose caractéristique, je me suis trouvé parmi des écrivains et pas parmi d'autres artistes, ça aurait pu aussi bien se trouver. Et bon, là vraiment, la littérature a commencé à devenir alors quelque chose de beaucoup plus imposant, comme je le disais tout à l'heure, qui en un sens m'a un peu fait honte des contes que j'écrivais en mon particulier. Et il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt de ma production, n'est-ce pas ? J'ai eu une espèce d'inhibition devant des gens qui étaient tous beaucoup plus âgés que moi, d'ailleurs. J'étais une petite fille parmi eux. Et j'ai eu honte. Je parle là de mes amis qui étaient Roger Gilbert Lecomte, n'est-ce pas, qui était poète, et dont les poèmes, évidemment, m'inspiraient la plus grande admiration. Et Adamoff, qui d'ailleurs n'avait encore rien publié, il avait publié quelques poèmes dans des petites revues d'amateurs. Et puis il y avait Antonin Artaud. Et puis il y avait des gens véritablement très impressionnants. Et la poésie l'emportait de loin. Je ne me souviens pas à cette époque-là qu'on ait tellement parlé de romans, qu'on ait tellement parlé en particulier de ce qui se passait à l'époque même. Mais la poésie joue un très très grand rôle, n'est-ce pas? Et alors le poète, ça représentait quelque chose de très spécial. C'était véritablement la figure inaccessible, la figure d'ailleurs placée vraiment au-dessus du commun, là encore complètement irréelle, mais dans un tout autre sens. Et je ne me souviens pas qu'à l'époque, on avait tout de même, si les surréalistes, bien entendu, avaient déjà placé très haut cette sorte de littérature merveilleuse. Pour eux, ce n'était pas exactement les contes de fées, c'était le merveilleux. Mais le merveilleux, ça va de soi, procède directement des contes folkloriques. Et bon, mais il s'agissait là non plus tellement de ce qu'on aimait et de ce qu'on aimait lire, mais il s'agissait de faire, il s'agissait de créer quelque chose. Et pendant très longtemps, j'en ai été empêchée, non pas peut-être uniquement, certainement pas uniquement par le sentiment de la médiocrité de ce que j'avais fait, pas uniquement, mais aussi parce que tout début est difficile, et je crois, enfin, particulièrement en littérature, sauf peut-être en ce qui concerne justement les poètes qui sont précoces, comme chacun sait, et la prose, n'est-ce pas, la prose, il n'y a rien de plus difficile. Et la prose, il faut la réinventer. Et en même temps, on ne peut pas la réinventer complètement. Il y a un problème technique que je n'arrivais pas à résoudre pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, je dois dire que personne à ce moment-là ne soupçonnait que j'écrivais. Je n'ai jamais montré à personne, j'ai jamais publié. Et je crois bien que beaucoup de choses ont été détruites, et ce qui ne l'a pas été ne va pas tarder à l'être, j'ai l'impression. Il y a quelque temps, quelqu'un de la radio m'avait demandé de lire des textes que je ne voulais pas publier, justement. Il voulait faire une série d'émissions avec, au fond, mes déchets. C'était une idée qu'il n'avait pas seulement pour moi, naturellement, une idée qu'il n'y avait plus en général. J'étais absolument horrifiée, n'est-ce pas ? Je ne vois vraiment pas pourquoi, au bout de 20 ans ou plus, ce qui était mauvais serait devenu subitement bon, ou pourquoi les auditeurs devraient être ennuyés avec des choses que moi-même, je n'ai pas voulu voir sortir au jour.
Toute histoire commence par « Il était une fois ». Sans doute. Mais comment passer du conte d'enfant à la littérature adulte, du merveilleux au réalisme?
Un jour, par hasard, c'est toujours par hasard que ces choses-là arrivent, il était une fois, oui, en effet. Un jour, je suis tombée sur une page d'un auteur tout à fait inconnu pour moi. C'était vraiment une page, sans titre, sans rien, enfin, ça me tombait littéralement du ciel, où, pour la première fois, j'ai trouvé, justement, ce qui me fascinait depuis toujours, au fond, dans la littérature, que je n'avais pas véritablement trouvé incarné jusque-là, dans une forme. Bien sûr, je pouvais encore une fois lire les romans toute la nuit, et je pouvais, mais je n'avais pas encore trouvé justement cette synthèse des deux éléments dont j'avais besoin. D'une part, le conte avec son merveilleux, avec son la sorte d'évasion qu'il permet, et le réalisme. Ça, évidemment, je ne l'avais jamais trouvé nulle part. Et je dois dire là, par parenthèse, que je n'ai jamais été par la suite une fanatique, comme l'étaient les surréalistes, n'est-ce pas, de toute littérature merveilleuse, quelle qu'elle soit, entendons-nous bien, justement, pas du tout. Car au fond, le conte, puisque nous en parlons, c'est une réussite extraordinaire dans le genre. Car il est vrai que ça fait partir dans un ailleurs totalement improbable, totalement fantastique, et que par là ça se rattache à toutes les littératures d'évasion. Mais d'un autre côté, c'est aussi une petite production très réaliste. Il y a un humour, une sorte de jeu sur cette invitation au rêve que le conte fait consciemment, très consciemment. Il y a en même temps un jeu là-dessus, il y a une ironie du conteur qui au dernier moment dit « bon, ces choses-là n'arrivent plus de nos jours, n'est-ce pas, autrement, si bon, les filles qui sont malheureuses dans leur famille pleuraient des perles en guise de larmes, n'est-ce pas, il n'y aurait plus de pauvres gens sur terre », ou bien à propos des histoires de soldats, par exemple, le conteur ajoute toujours un trait un trait, si vous voulez, qui ramène justement à la terrible réalité du temps, à la terrible réalité de l'époque. En fait, c'est par un détour, le conte invite à un détour pour retrouver quelque chose qui est bel et bien le monde d'ici. Il emmène ailleurs pour vous ramener chez vous, et en particulier dans votre famille, chez le vrai père et la vraie mère qu'il a faim de quitter pour vous entraîner dans un royaume imaginaire. Et ça, je crois que c'est à ça que j'étais surtout sensible, si vous voulez. La poésie pour la poésie, le merveilleux pour le merveilleux, au fond, non, non, ce n'était pas ça dont j'avais véritablement besoin. Mais pour que je m'en aperçoive, il a fallu évidemment que je rencontre quelqu'un qui avait pénétré comme personne d'autre, n'est-ce pas, la vraie nature du conte, et qui en avait fait non seulement une forme traditionnelle, aussi éternelle à mon avis que le conte lui-même, mais en même temps une forme d'avant-garde. Et c'est seulement à ce moment-là, quand j'ai trouvé cette synthèse extraordinaire de ces deux éléments, que il me semblait que j'avais compris ce que c'était la littérature, n'est-ce pas. Jusque-là, je n'avais fait qu'un peu que tourner autour. Ça a été en tout cas pour moi sur le moment très mystérieux. Bien sûr, je n'ai pas non plus compris pourquoi cette unique page, car je n'en connaissais pas d'autres. Pourquoi cette unique page de Kafka, puisqu'il faut bien dire son nom. Pourquoi cette unique page m'a tellement bouleversée. Une page. Je l'ai lu dans une traduction, d'ailleurs je ne l'ai même pas lu en allemand, c'est le plus intéressant, qui lui avait donné un titre, alors qu'il n'y a pas de titre dans l'original. C'est un texte que Kafka a écrit dans son journal, parmi bien d'autres fragments, parmi bien d'autres esquisses, des ébauches, n'est-ce pas. Vous savez qu'il a laissé dans ses papiers posthumes à peu près de quoi nourrir les œuvres complètes d'une trentaine d'écrivains, vraiment. Et ce texte en fait partie. Il est achevé, celui-là. Il ne semble pas avoir été conçu pour avoir une longueur plus grande. En tout cas, il forme un tout parfait. Et encore une fois, il n'a pas de titre, mais dans le texte que j'ai lu, il s'appelait L'épée. J'étais convenue de faire une excursion dominicale avec deux amis. Mais tout à fait par hasard, je ne me réveillais pas et laissais passer l'heure du rendez-vous. Connaissant ma ponctualité habituelle, mes amis s'en étonnèrent, allèrent à la maison où j'avais mon logement, attendirent encore un moment en bas, puis montèrent l'escalier et frappèrent à ma porte. Je fus très effrayée, sautai au bas du lit et ne fis attention à rien, sinon à la nécessité de me préparer au plus vite. Au moment où je franchissais la porte, habillée des pieds à la tête, mes amis, visiblement effrayés, s'écartèrent de moi. « Qu'as-tu derrière la tête ? » s'écrièrent-ils. J'avais déjà senti, dès mon réveil, quelque chose qui m'empêchait de pencher la tête en arrière, et je me mis à chercher cet obstacle à tâtons. S'étant quelque peu ressaisi, mes amis s'écrièrent « Prends garde, ne te blesse pas !» Juste au moment où je saisissais derrière ma tête la poignée d'une épée. Mes amis s'approchèrent, m'examinèrent, m'amenèrent dans la chambre devant l'armoire à glace et me déshabillèrent jusqu'à mi-corps. Une grande et ancienne épée de chevalier à poignée en forme de croix était fichée dans mon dos jusqu'à la garde. Mais de telle sorte que la lame s'était glissée avec une précision incompréhensible entre cuir et chair et n'avait pas provoqué de blessure. Il n'y avait du reste pas de plaie non plus à l'endroit du cou où elle avait pénétré. Mes amis m'assurèrent que la fente nécessaire au passage de la lame s'était ouverte sans le moindre épanchement de sang. Et quand, montée sur une chaise, mes amis retirèrent lentement l'épée, millimètre par millimètre, il ne vint pas de sang, et la place ouverte sur le cou se referma, ne laissant subsister qu'une fissure à peine perceptible. « Tiens, voilà ton épée !» me dirent mes amis en riant, et ils me l'attendirent. Je la soupesai des deux mains. C'était une arme précieuse, il se pouvait fort bien que des croisés s'en fussent servis. Qui permet à d'anciens chevaliers de rôder dans les rêves? Irresponsables, ils brandissent leurs épées, en percent d'innocents dormeurs, et s'ils ne provoquent pas de graves blessures, c'est tout d'abord sans doute parce que leurs armes glissent sur les corps vivants, mais aussi parce que des amis fidèles se tiennent derrière la porte et frappent, prêts à vous porter secours.
C'est étrange. Vous aimiez les contes, vous tombez par hasard sur ce texte, vous découvrez ce qui, à votre sens, est le cœur même de la littérature, vous dites que c'est la prose la plus prosaïque, et vous dites aussi que c'est le monde à la fois fantastique mais aussi parfaitement réel. Alors on se trouve là placé devant quelque chose d'assez étonnant, c'est que ce qui est le plus extraordinaire finalement peut se trouver dans le plus quotidien. Et on a donc une sorte de renversement des choses qui fait que, partie du conte, vous arrivez à la plus grande littérature qui elle-même retrouve le conte.
Une littérature réaliste. Mais, je le disais tout à l'heure, le réalisme et le conte font très bon ménage, contrairement à ce que l'on pense généralement. Il y a, si vous voulez, un fond, au fond, de bon sens et une volonté d'éclairer, d'ailleurs une volonté pédagogique, une volonté didactique dans le conte, qui n'est pas du tout étrangère aux histoires de Kafka. N'est-ce pas ? C'est pas qu'il ait voulu enseigner quelque chose aux autres, ça non, sûrement pas, mais il voulait s'enseigner quelque chose à lui. Ces histoires lui servaient véritablement de moyen de connaissance. Et dans cette utilisation d'un savoir, d'une connaissance de soi, il est certain que la prose la plus dépouillée est nécessaire, c'est la plus aiguë, c'est la plus cruelle aussi, parfois. Et appliquée, alors, au sujet pour lequel elle semble être le moins faite en général, n'est-ce pas justement, c'est ailleurs du rêve. Là, Kafka dit nommément, qui permet à un ancien chevalier de venir rôder dans les rêves? C'est un rêve, il a rêvé. Le simple fait qu'au lieu de mettre le rêve dans la nuit, comme le font si souvent les conteurs romantiques, vous racontent toute une histoire, et puis à la fin, on vous dit toujours plus ou moins habilement, plus ou moins adroitement, on vous dit une chose, et ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas ? La grande trouvaille de Kafka, c'est que ça se passe toujours au lendemain d'une nuit plus ou moins agitée, au réveil, à un moment crucial comme ça, entre veille et rêve, et c'est la prolongation, c'est plutôt la suite d'un rêve, donc qui participe déjà de la vie quotidienne, il est déjà dans la lumière de la vie quotidienne, il est déjà pris dans ce réseau de rapports, de relations concrètes, de relations terre à terre, avec autrui, avec les autres, et il garde en même temps comme un reflet du monde nocturne d'où il vient. Je crois que c'est ça qui crée la fascination très très particulière de ces histoires, qui en réalité ne sont pas fantastiques du tout. Il me restait encore bien des années à travailler, premièrement pour le comprendre, et deuxièmement pour le faire comprendre au public.
C'était Le monde des fées. Anouk Adelman, Marthe Robert. Prise de son, Michel Créis, Jean-Paul Herbert. Mixage, Nicole Dalmar. Avec les voix de Catherine Laborde et Jean-Marie Ferté. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Christiane Mallarmé.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 mars 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.